d'une façon excellente, la plus excellente qui soit. Donc, vous voyez, c'est encore dans la même manifestation, mais vous voyez tout de suite la différence. Hein. L'argument change un tout petit peu. Ce n'est plus la plénitude de la foi, ce n'est plus la plénitude de la grâce, c'est sa fonction d'enseignement. Les charismes sont donnés pour la fonction d'enseignement. La communication, la théologie de la communication, c'est la théologie des charismes. Ce n'est pas la théologie de la sanctification. La plénitude de la grâce, c'est la sanctification. On est sanctifié par la grâce. On n'est pas sanctifié par les charismes. Mais on parle de nous. C'est la manifestation. C'est évident. On parle des gens qui ont des charismes. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des gens qui ont la plénitude de grâce. Alors quand ils ont les deux, c'est très intéressant de voir l'un en charge du silence et l'autre en prenant la communication, la manifestation. Il faut les deux, il faut les deux. C'est deux choses tout à fait différentes. Les hommes du charisme et les hommes du silence. Et dans l'Église, il y a deux. Alors, première objection. On ne participe pas à un bien quand on le possède en plénitude. Ça, c'est la question de la participation et de la plénitude. Non inim quid aliquid secundum plenitudem, non competit illud habere secundum participationem. Donc la participation implique toujours qu'on ne possède qu'une partie. Et si on possède une partie, on ne possède pas la plénitude. Hein. C'est la différence entre les deux. Or, le Christ a eu la plénitude de la grâce, selon cette parole de saint Jean. Il était plein de grâce et de vérité. Par ailleurs, les charismes nous apparaissent comme des participations de la grâce attribuées diversement et partiellement, puisque saint Paul écrit aux Corinthiens « Il y a diversité de dons. Il ne semble donc pas que le Christ ait possédé des charismes. » C'est très curieux comme objection et c'est intéressant. Charismes liés à la participation. Les charismes liés à la multiplicité, alors que la grâce est liée à l'unité. Et au fond, c'est toujours la même raison. Hein. C'est que les charismes sont liés aux fonctions. Alors, les fonctions sont multiples. Les charismes sont liés à la communauté. Alors, la communauté est toujours multiple dans ses fonctions, n'est-ce pas ? Tandis qu'au contraire, la grâce et la plénitude de grâce est liée à la personne. Donc elle n'applique pas cette multiplicité. C'est l'intérêt, vous voyez, de ces objections, c'est que c'est pas tellement le. C'est de voir comment saint Thomas les insère pour le voir le point de vue particulier des charismes et de la plénitude de grâce. Réponse. Tandis que la grâce sanctifiante est ordonnée aux actes méritoires intérieurs ou extérieurs, le charisme se réfère à certains actes extérieurs qui manifestent la vérité de la foi, tels que les miracles ou autre chose semblable. Or, à ce dernier point de vue, comme au premier, le Christ a eu la plénitude de la grâce. Son âme, en effet, unie à la divinité, se trouvait parfaitement apte à accomplir tous les actes des charismes. Au contraire, les autres saints, qui ne sont pas entre les mains de Dieu, des instruments conjoints, mais séparés, ne reçoivent que partiellement le pouvoir de produire de tels actes. Et c'est pourquoi, à la différence du Christ, ils ne possèdent pas toutes les charismes. Là aussi, c'est facile à comprendre, il y a la plénitude de grâce de Jésus. Cette plénitude de grâce de Jésus doit se comprendre de deux manières. Plénitude de grâce sanctifiante, étant donné sa sainteté, plénitude de grâce du côté du rayonnement, du côté de la communication, du côté de la manifestation, d'où grâce, d'où les charismes. Nous avons ensuite le Christ fut-il prophète. Je crois qu'on peut passer tout de suite parce que c'est pas. Le Christ fut-il prophète. Alors voyez les différences. Hein, on a fait le point de vue de la crainte pour les dons, on fait la prophétie pour les charismes. Il y a un petit choix particulier. Alors pourquoi? Pour la crainte, on voit, c'est le don le plus fondamental. C'est donc le don où l'aspect négatif est le plus fort. Alors on prend celui-là, a fortiori tous les autres. Les prophètes. C'est pas le dernier des dons d'être prophète. Hein. Dernier des dons, vous savez bien, hein, c'est le don des langues. Ou le don du gouvernement, le charisme du gouvernement. C'est pas un des premiers. Don des langues, charisme du gouvernement. Le premier don, c'est lequel? Point du charismatique. Est-ce qu'on peut établir une hiérarchie parmi les charismes? Au don de sagesse et la communication de ce don de sagesse. Alors, pourquoi y a-t-il une hiérarchie dans les charismes, dans la grâce? Il y a une connexion et vous pouvez établir un certain ordre, une harmonie entre les dons. Parmi les charismes, vous pouvez établir beaucoup plus une hiérarchie parce qu'on est beaucoup plus orienté vers des biens particuliers. Tandis que les dons ne sont pas ordonnés vers le bien particulier, c'est toi. Oui.
Est-ce qu'on pourrait dire que les dons sont connexes comme les vertus, alors que les
charismes sont pas connexes.
Voilà, sont beaucoup plus proches.
C'est du
frère
Chéret. Voilà. Beaucoup plus.
Donc, c'est leur. Parle pas de la division des.
Oui. Alors pourquoi, alors une fois que vous avez saisi ça, pourquoi prend-il le prophète? Enfin, on saisit ça. Saisit les dons sont dans l'ordre de l'agir. Les charismes sont dans l'ordre du fachéret, ça c'est sûr. Il s'agit de réaliser quelque chose, il s'agit de réaliser une œuvre. Alors comment se fait-il qu'on prend du côté des dons le point de vue de la crainte et du côté des charismes le prophète? C'est intéressant de se poser au moins la question, parce que ça veut mieux comprendre, je ne crois pas que c'est le hasard, c'est de poser au moins prophète. Il y a sûrement une petite raison, alors voyons tout de suite, on va essayer de découvrir après. Le Christ fut-il prophète? Il est écrit au Deutéronome, Dieu nous suscitera un prophète du milieu de vos frères. Et le Christ disait de lui-même, un prophète n'est sans honneur que dans sa patrie. C'est très bien. À Nazareth, il était mis en dehors. Rejeté. On donne le nom de prophète à celui qui annonce ou qui voit ce qui est éloigné, en ce sens qu'il connaît et dit des choses qui dépassent la portée de la connaissance humaine. Donc vous êtes prophète si vous voyez l'invisible à travers le visible. Vous êtes prophète quand vous annoncez quelque chose que vous ne pouvez pas déjà connaître à partir des principes. Parce que vous n'êtes pas prophète quand vous déduisez. Le prophète ne déduit pas, il voit. Il y a des gens qui ont une subtilité de déduction très très rapide, et alors on croit qu'ils sont prophètes. En réalité, ils ne le sont pas. Ils déduisent très très rapidement, ils ont une espèce de facilité extraordinaire, ils ne sont pas prophètes. Pour être prophète, il ne suffit pas de connaître et d'annoncer à des gens dont on est éloigné ce qu'ils ignorent. Mais il faut encore partager la vie de ses interlocuteurs. Et cela apparaît manifeste tant en ce qui concerne le lieu qu'en ce qui concerne le temps. Si un individu, par exemple, habitant la France, annonçait à ses compatriotes résidant en France ce qui se passe en Syrie, vous voyez, ça la glose marginale, in Gallia existence. Hein? Et alors, in Syria, ce qui se passe en Syrie, il serait prophète. Pourquoi saint Thomas a-t-il choisi la France et la Syrie? C'est ainsi, je ne peux pas oublier, c'est Saint-Louis, hein? C'est ainsi qu'Élisée annonçait à Dzhetzi qu'un homme descendait de son char et venait à sa rencontre. Alors, le parallélisme, l'analogie avec la Syrie et la France est assez jolie, n'est-ce pas? Il n'y aurait rien de prophétique, au contraire, pour un individu résidant en Syrie à annoncer ce qui se passe dans son pays. Le Telex communique immédiatement, ce n'est pas d'ordre prophétique. De même, en direct, n'est-ce pas ? En direct, on vous communique ce qui se passe. De même, en ce qui concerne le temps, Isaïe était prophète lorsqu'il présidait que Cyrus, roi des Perses, réédifierait le temple de Dieu, tandis qu'Esdras ne l'était pas lorsqu'il narrait le fait qui se passait de son temps. Dès lors, quand Dieu, les anges ou les bienheureux connaissent et annoncent les choses qui échappent à notre connaissance, cela ne relève pas de la prophétie, mais du télex. Car il ne partage d'aucune manière notre état de vie. Il faut être dans les mêmes conditions de vie, c'est pour ça qu'il soulignait. Le Christ, au contraire, avant sa passion, se trouvait dans le même état que nous, puisqu'il était non seulement bienheureux, mais encore pèlerin terrestre. Première fois, on arrive à voir cette terminaison ici. C'est à cause du prophète, hein. Condition pour le prophète. Si Jésus n'avait été que compréhensor, il n'aurait pas été prophète. Mais puisque Jésus est viator, il peut être prophète. Mais encore pèlerin terrestre, il pouvait. Donc, à la manière d'un prophète, connaître et annoncer les choses qui n'étaient pas à la portée des autres pèlerins. Sous ce rapport, on peut dire qu'il possédait le don de prophétie. Donc, vous voyez les deux conditions pour le don de prophétie. Hein. Annoncer quelque chose qu'on ne peut pas connaître et qui échappe à la connaissance normale, et vivre dans la même condition, au point de vue de cette connaissance, que les autres. Autrement, il n'y a pas de prophétie. Quelqu'un qui est dans la vision béatifique et qui annonce ce qui va arriver, s'il le voit dans la vision béatifique, il ne fait qu'annoncer et révéler. Révéler quelque chose n'est pas prophétique. Oui. Par rapport, ça exige de lui la foi.
Non, c'est par rapport au Christ lui-même, parce que par rapport à celui qui fait la prophétie.
C'est par rapport au Christ lui-même, en tant qu'il est viator. Alors il y a une autre prophétie. Forcément. Vous voyez ? Il faut, le don de prophétie exige donc un don charismatique qui dépasse la connaissance selon la condition qu'on a. Autrement dit, c'est ça qui est assez joli et intéressant, c'est que quand il s'agit de la connaissance, il faut préciser une connaissance qui nous dépasse, il faut préciser le conditionnement. Si, ayant eu le privilège d'avoir été dans la Lune, n'est-ce pas ? Je vous dis ce qui se passe là-bas. Vous le recevez dans la foi. Une foi humaine. Et moi, ce n'est pas quelque chose qui est prophétique. Je l'ai vu. J'étais là dans cette condition. Donc, ce n'est pas prophétique. Tandis que si d'ici je vois quelque chose que je ne peux pas voir avec mon œil habituel, n'est-ce pas ? Et que je vois, alors à ce moment-là, selon mon côté, ça dépasse mon conditionnement. Mais alors, c'est intéressant parce que c'est du côté de la connaissance. La connaissance, on doit toujours préciser le conditionnement même dans lequel on est. Ou les appareils avec lesquels on connaît. Ce n'est pas prophétique d'annoncer quelque chose, de dire quelque chose grâce à un appareil particulièrement pénétrant et précis. Les autres ne voient pas, ils n'ont pas le même appareil. Alors pour eux, ils ne voient pas, moi je le vois. Mais parce que je suis dans ce conditionnement grâce à l'appareil, ce n'est pas prophétique pour moi. Donc je ne prophétise pas.
Est-ce qu'on peut dire que l'ânesse de Balaam était prophète ?
Vous vous demandez si c'était métaphorique.
Elle a donné connaissance.
Oui, est-elle capable d'avoir le don de prophétie ? Alors, verbe 2, 30 et 10. Elle s'est mise à parler.
Elle a donné connaissance de quelque chose que les autres ne voyaient pas. Selon
vous voyez, alors on dirait aujourd'hui, n'est-ce pas, selon toutes les études des gorilles, l'ânesse de Balaam était particulièrement évoluée. Puisqu'il parlait comme des sourds-muets. Alors, sous ce rapport, l'on peut dire qu'il possédait le don de prophétie. Voyons tout de suite la réponse aux objections. C'est intéressant que c'est la prophétie. Oui.
Est-ce qu'on peut dire que dans la prophétie, c'est donc le témoignage de la vie qui remplace la testification des... du conditionnement.
Témoignage de la vie dans le sens.
Qui appuie ce qu'on dit, le message.
Ah oui, oui, qui vient donner comme une certitude nouvelle, et une autorité nouvelle.
Donc c'est la meilleure mise en lumière du message donné.
Oui, oui, oui. Dans cet ordre-là, oui. Par rapport à la connaissance, parce que c'est de l'ordre de la connaissance. On vous montre dans cet ordre de la connaissance qu'on vous transmet quelque chose que vous n'avez pas. Et qui vient directement de Dieu pour montrer que Dieu garantit votre message. C'est pour ça que le don de prophétie est d'aller plus à ceux qui enseignent. Pour garantir, pas la métaphysique, mais la théologie.
Donc celle, quelque chose qui nous parle de la vie de l'homme.
Sûrement. Et c'est peut-être pour ça que saint Thomas choisit la prophétie, vous voyez. À cause de l'enseignement du Christ. C'est le lien entre la prophétie et l'enseignement, quoi, autrement dit. Tous les deux sont dans de la connaissance. Hein. Tous les deux sont dans de la connaissance et tous les deux sont dans de la communication. Parce que enseigner, c'est communiquer. Les charismes sont dans de la communication. Alors, les charismes viennent confirmer, le charisme de prophétie vient confirmer que l'enseignement que vous donnez est selon la vie.
Ce ne serait pas plutôt parce que le don de prophétie implique une imperfection, à savoir que ce qu'on annonce dépasse le mode de notre connaissance. Or, le Christ avait une connaissance parfaite, parce qu'il implique de la vie. Donc.
Ah oui, mais est-ce que le Christ, dans son enseignement, est-ce qu'il communiquait sa vision béatifique ?
Non, mais c'est l'objection, je veux dire. C'est ça.
Oui, oui.
C'est
oui,
ce qui justifierait la foi. C'est le mode d'imperfection qui est inclus, qui semble exclure, qui est inclus dans la prophétie et qui semble exclure du Christ. Oui. Ce serait pas plutôt ça.
Et est-ce que aussi dans le don de prophétie sont inclus les savants sapientiers, les savants intelligentiers?
Ah non.
Ou alors est-ce que c'est des deux
distincts? C'est très différent. C'est très différent. Le contenu du cerveau sapientier, c'est de pouvoir communiquer au contraire. Le cerveau sapientier est beaucoup plus proche du mystère vécu intérieurement.
Mais pourtant les deux sont dans l'ordre de la communication.
Les deux sont dans l'ordre de la communication. Tout ce qui est dans l'ordre de la communication. Tous les charismes sont dans l'ordre de la communication. Oui, on communique une, tandis que cerveau sapientiel, on communique une expérience de vie divine. Vous voyez ?
On ne peut pas communiquer quelque chose qui touche immédiatement les réalités divines par le don de prophétie ?
Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est l'invisible. Il y a un témoignage de l'invisible. C'est pas directement ça.
C'est peut-être plus lié, dans ce cas-là, au don de conseil. Non ? Le contagion.
Oui, le contagion, la prudence.
La prudence, oui, c'est ça. Oui. Est-ce qu'on peut le rapprocher ? J'essaie de faire le lien.
Est-ce que moi je dirais que, vous voyez, c'est plus pour confirmer l'autorité de ce discours. Moi je crois.
Il pourrait éclairer la prudence.
C'est plus l'autorité, vous voyez. C'est plus le point de vue de l'autorité. Vous savez, vous êtes bien ici, c'est pas pour confirmer l'autorité. C'est plus par rapport au bien sous lequel on communique. C'est pas tellement pour confirmer l'autorité. Tandis qu'au contraire, le don de prophétie, c'est pour confirmer votre autorité en tant que vous annoncez la parole de Dieu. Oui. Parce que c'est quelque chose qui fera plus que voulez-vous. Le don de prophétie fera beaucoup plus que le cerveau sapientiel. C'est plus manifeste. Oui. Donc, c'est plus dans la continuation de la communication de la grâce substantielle.
Mais nous, je pense, quand on disait de Jésus qui parle avec autorité, est-ce que c'est lié à son caractère de prophétie ou c'est lié à son cerveau sapientiel?
Moi, je crois c'est lié à sa personne.
C'est lié à sa personne. Donc si c'est lié à sa personne, c'est au-dessus. Et le don de prophétie était pour qu'on comprenne qu'il parlait de l'autorité.
Est-ce que le cerveau sapientiel ne donne pas une certaine autorité dans le prédicateur qui a le cerveau sapientiel? Est-ce qu'il n'a pas une autorité plus grande dans sa prédication que celui qui récite, je vais dire simplement ce qui lui a été dit, mais qui ne vit pas véritablement?
Ah, c'est sûr, c'est évident, il fera plus sa parole à une.
Ce que je me demandais, est-ce que cette autorité de Jésus, est-ce que nous on y participe d'une certaine manière? Quand on dit que Jésus parle avec autorité, tous ceux qui sont reliés à la tête et qui enseignent doivent parler avec la même autorité, non?
Oui, mais les délégués.
Donc c'est pas la même, connaissez? Alors voyons tout de suite. La prophétie comporte une connaissance obscure et imparfaite. Il est écrit en effet dans les Nombres, s'il y a un prophète du Seigneur parmi vous, c'est en songe, par vision que je lui parlerai. Mais le Christ a eu une connaissance parfaite, bien supérieure même à celle de Moïse, dont il est dit qu'il vit Dieu à découvert et non par énigme. Le Christ ne fut donc pas prophète. La réponse. Le texte cité ne signifie pas que la connaissance énigmatique par songe et vision fait partie essentielle de la prophétie. Mais il tend à comparer les autres prophéties, les autres prophètes, qui connurent les réalités divines en songe et par vision. Avec Moïse, qui vit Dieu à découvert et sans énigme. Ce qui ne l'empêche pas d'être appelé prophète, selon cette parole du Deutéronome. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète semblable à Moïse. L'on peut dire néanmoins que le Christ, tout en ayant une pleine et parfaite connaissance sous le rapport de l'intelligence, eut encore dans son imagination des images en lesquelles il pouvait contempler un reflet du divin, précisément parce qu'il était pèlerin, non pas seulement bienheureux. Oui. Le conditionnement dans lequel le Christ vivait et communiquait son intelligence. C'était par le point de vue de l'imagination. Par le point de vue de l'imagination, on pouvait comprendre ce mode symbolique. Pardon, par rapport. Ça ne nous dit pas, hein, le rattachement, c'est ça. Ça reste quelque chose de. Alors, seconde objection. De même que la foi a pour objet ce que l'on ne voit pas, et l'espérance ce que l'on ne possède pas, ainsi le prophète a pour objet des réalités qui ne sont pas présentes mais éloignées. Le prophète, en effet, c'est en quelque sorte celui qui annonce ce qui est éloigné. Or, dans le Christ, il n'y avait ni loi, ni foi, ni espérance, il ne devait donc pas y avoir non plus de prophétie. Vous voyez, l'analogie est assez jolie. elle est intéressante. La foi a pour objet ce qui n'est pas vu par celui qui croit. De même, l'espérance a pour objet ce qui n'est pas possédé par celui qui espère. Mais la prophétie vise les réalités qui ne sont pas à la portée de la connaissance commune des hommes. Et que le prophète possède et communique, tout en demeurant dans l'état de foi. C'est pourquoi, dans le Christ, la foi et l'espérance répugnent à la perfection de cet état bienheureux, mais non pas la prophétie. Donc, c'est la même raison, si vous voulez, c'est que la plénitude de la foi, la plénitude de la grâce habituelle, supprime foi et espérance. La plénitude de la grâce habituelle ne supprime pas les charismes ou les charismes prophétiques. Pourquoi ? Parce que le Christ restait viator. Si le Christ n'était plus viator, il n'y aurait pas eu de charisme. Donc, de nouveau, on insiste sur cette question du viator nécessaire pour qu'il y ait charisme prophétique. Alors, je lis la dernière objection. L'ange, parce qu'il est bienheureux, est au-dessus du prophète qui n'est que simple pèlerin terrestre. Mais il n'est pas au-dessus du Christ qui fut à la fois bienheureux et pèlerin. Alors, posons-nous la question. Pourquoi saint Thomas fait-il ce lien, c'est très curieux, les dons du Saint-Esprit, crainte, on ne peut pas tout traiter, donc il choisit un extrait, les charismes, prophètes. Les dons du Saint-Esprit sont dans le prolongement de la plénitude de grâce. Donc nous touchons là la sainteté du Christ. Et nous touchons là, théologie mystique, au cœur du Christ. Il y a une plénitude de crainte révérentielle dans le cœur du Christ. Ça fait partie de l'amour du cœur de Jésus. Si nous voulons faire creuser l'amour qui est dans le cœur du Christ, nous devons dire que cet amour s'exerce dans une plénitude du don de crainte. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que le don de crainte donne par rapport à l'exercice de l'amour? Il donne cette espèce de révérence, de respect, de délicatesse à l'égard de l'amour du Père, par rapport à lui. Ça touche l'humilité. Mais je pense qu'on a trouvé ça de bien comprendre la différence entre l'humilité et le don de crainte. Hein, et quelquefois, on confond les deux. L'humilité et le don de crainte. Hein, parce que le don de crainte s'épanouit dans la pauvreté. Et la pauvreté et l'humilité, ça se tient. Hein, c'est pas tout à fait, c'est pas la même chose. Mais crainte, pauvreté, humilité. Et tout ça est de l'ordre de la plénitude de la sainteté du Christ. Et tout ça est dans le cœur de Jésus. C'est l'amour du cœur du Christ, hein, qui applique cet aspect d'humilité. J'allais dire, c'est l'amour en creux, en quelque sorte. Hein. C'est l'amour qui creuse la pauvreté, qui creuse l'humilité, qui creuse par le don de crainte, par l'exercice du don de crainte, il y a un abîme de pauvreté, un abîme d'humilité qui se creuse dans le cœur de Jésus. C'est la profondeur du cœur de Jésus qui touche le point de vue de cette plénitude d'humilité. Les charismes, la prophétie. Donc les charismes, ce n'est plus directement relié à la sainteté, quoique dans le Christ, ce sera relié à la sainteté de Christ. Mais ce n'est pas directement relié. Alors là, c'est un problème que nous verrons ensuite, parce que les charismes ne sont pas liés directement à la sainteté, mais dans le Christ, il y a un lien entre le point de vue de la plénitude de sa grâce et le point de vue des charismes. On pourrait dire la plénitude de la grâce du Christ, hein, la sainteté du Christ, regarde son individualité, et ici, regarde le Christ comme tête. Les charismes, c'est nettement le Christ comme tête. C'est parce qu'il est chef de l'Église, il doit s'occuper de la communauté. La communauté, donc le peuple de Dieu. C'est pour le peuple de Dieu que le Christ exerce les charismes, pour les aider. Alors, parmi les charismes, on prend non pas le sermo sapientiae, mais le don de prophétie.
Oui. La plénitude de connaissance de Christ par sa vision béatifique, on peut se demander si la prophétie, qui est donc une connaissance moins parfaite, doit subsister, puisque le Christ sait tout et enveloppe le temps par cette vision. Donc il a une expérience et une connaissance du mystère de l'éternité qui enveloppe le temps. Et donc on peut se demander si cette connaissance du futur qui ne prêche, qui échappe à son intelligence, doit subsister, puisqu'il a la vision béatifique. Et donc est-ce que c'est encore une prophétie?
Alors c'est là où, justement, où il montre le point de vue de sa condition de pèlerin. C'est parce qu'il est pèlerin, sa condition de pèlerin, qui permet sa prophétie. S'il n'était pas pèlerin, il ne pourrait pas avoir le don de prophétie. Donc, oui.
Parce que les autres charismes, la guérison, tout ça,
c'est plus l'aspect d'amour.
Non, puis même c'est plus l'aspect du transcendant, tandis que le prophète, c'est celui qui a vécu par
nous. Oui, c'est celui qui a vécu par nous.
C'est peut-être ça, plus l'aspect.
C'est celui qui a vécu la plus.
Celui qui veut toucher les hommes.
Et l'aspect humilité. Je dirais plus miséricorde. Vous voyez, parce qu'au fond, les guérisons, c'est la miséricorde dans le sens le plus fort, et ça relève beaucoup plus immédiatement de la charité. Tandis que là, c'est vrai que c'est le point de vue de la connaissance, c'est la condition dans laquelle il demeure. Il veut demeurer pèlerin. Et parce qu'il veut demeurer pèlerin et qu'il est vraiment pèlerin, il peut être prophète. Il est prophète.
Ça nous éclaire un peu sur la connaissance du Christ et sur la... Il reste une certaine imperfection dans son intelligence, puisqu'il est capable de...
Ah non. C'est pas une question d'imperfection.
Il pourrait y avoir une question au niveau de la finalité, au niveau des choses contingentes, qu'il puisse avoir parce qu'au niveau de la finalité, la plénitude de la sagesse.
Non, c'est tout simplement ça, c'est qu'il accepte cette condition de pèlerin. Ben, je crois que c'est vraiment ça. Alors la condition de pèlerin n'est pas une imperfection. C'est une condition. Que cette condition de pèlerin entraîne. Oui, non pas des imperfections, mais entraîne des limites. Alors, d'accord, oui. Entraîne des limites. C'est des limites.
Parce que si
pas les imperfections.
Non, c'est ça. Si il y avait un exercice du don de prophétie, sinon il y a des lumières portant sur l'avenir, qui lui sont données, et
qu'il ne lui était pas dû en fonction de sa condition de pèlerin. Et que c'est donné par surabondance pour exercer cette fonction de tête. Et donc c'est l'autorité. Voyez le sens. Pour permettre à son enseignement d'avoir cette autorité, de manifester cette autorité. Le Christ possédait-il la plénitude de la grâce? Je vous en fais grâce.